L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Nous allons consacrer cette émission à la présentation du colloque Science et Théologie organisé par la Métropole roumaine d'Europe occidentale et méridionale qui a eu lieu du 1er au 2 octobre dans la crypte de l'église Saint-Sulpice à Paris qui abrite la paroisse roumaine Saint-Paraceve-Saint-Geneviève. Le thème de cette rencontre a été la connaissance en théologie et en science, objectif, repère méthodologique. Le colloque a réuni des importants scientifiques chrétiens, catholiques et orthodoxes de France et des théologiens orthodoxes français et roumains. La première partie du programme, appelée le module Science, a commencé en début de la soirée du vendredi 1er octobre par la conférence du professeur Pierre Perrier, secrétaire général de l'Académie des technologies de France, sur le savoir technique. Samedi matin, après la célébration de la Divine Liturgie, Monseigneur Joseph Pope, métropolite de la métropole roumaine d'Europe occidentale et méridionale, a ouvert par son introduction la deuxième journée du colloque. Le module Science a continué par une table ronde qui a réuni le psychophysiologiste Jean-François Lambert et deux membres de la paroisse orthodoxe roumaine Saint-Paraceve-Saint-Geneviève, Viorel Ștefăneanu, professeur de littérature comparée à l'Université Paris 12, et Dan Vaniek, docteur en médecine. Jean-François Lambert, maître de conférence à l'Université Paris 8 et président de l'Université interdisciplinaire de Paris, a parlé sur le dialogue science et religion, conditions et limites. Il est chrétien catholique. Nous lui avons d'abord demandé de nous parler de l'université dont il est le président.
Pour ce qui concerne l'UIP, l'Université interdisciplinaire de Paris, il s'agit d'une institution qui a le statut d'association, dont la vocation est d'essayer de réunir les domaines considérés souvent comme séparés, voire opposés, de la science et des traditions, notamment les traditions religieuses et parmi celles-ci, la tradition chrétienne. J'insiste sur le point que ce que nous cherchons à faire, c'est à réunir sans confondre. Il y a, disons, un courant à la mode, connu souvent sous le vocable de Nouvel Âge, New Age, qui laisserait croire qu'il n'y a plus de différence ou d'opposition entre les savoirs traditionnels et les savoirs rationnels. Ce que nous essayons de faire, c'est de distinguer, de bien montrer que chacun de ces modes d'approche a un langage qui lui est propre, a une visée qui lui est propre, mais que ces distinctions ne signifient pas opposition. Et que malheureusement en France, tout le monde le sait, à la fin du XIXe siècle et pendant une large partie du XXe siècle, l'opposition a été vive entre les courants rationalistes et les courants religieux, particulièrement l'Église catholique. Et précisément, ce que nous essayons de montrer, c'est à la fois que les discours ne doivent pas être confondus, mais que différence ne signifie pas contradiction ni opposition. Donc nous essayons de réunir sans confondre.
Monsieur Lambert, quelles sont vos impressions à l'occasion de votre participation à ce colloque Science et Théologie ?
La table ronde à laquelle j'ai participé me conforte dans le sens de ce que j'ai dit moi-même, à savoir que nous ne pouvons que nous réjouir de voir une évolution positive, de voir de plus en plus de scientifiques croyants qui osent parler de leur foi, y compris en tant que scientifiques, ou de scientifiques parfaitement agnostiques ou athées, pour qui désormais envisager la question du religieux n'est plus tabou. Donc on ne peut que se féliciter de ce mouvement et de ce passage d'une vision d'opposition frontale à au moins un dialogue. J'ai moi-même insisté dans ce que j'ai dit ce matin sur le fait que ce dialogue avait des conditions pour être fructueux. Ce dialogue est soumis à des conditions et ce dialogue a ses limites. La condition numéro un de ce dialogue, et les deux autres intervenants de ce matin ont plaidé dans le même sens, c'est le respect des différences, c'est le respect des objectifs. Encore une fois, pour reprendre la célèbre formule attribuée à Galilée lors de son procès, il aurait dit que précisément le rôle de l'Église n'est pas de dire comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Le rôle de la science est de décrire comment sont les choses, de décrire les phénomènes, et ça reste tout à fait vrai, alors que le rôle de la religion, en particulier de la chrétienne, ce n'est pas finalement de décrire les phénomènes, mais d'essayer d'en pénétrer le sens. Et donc, dans la mesure où chacun respecte son cahier des charges, il ne devrait pas y avoir de conflit entre la science et le religieux. Dans la mesure où, précisément, la science ne se mêle pas de prétendre donner une vision totalisante et totalitaire du savoir et du réel, et dans la mesure où la religion ne se mêle pas d'indiquer aux scientifiques comment ils doivent travailler ou ne se mêle pas de savoir si les neutrinos ont une masse. C'est pas absolument pas un problème qui concerne le religieux. Mais le problème qui concerne le religieux, c'est typiquement quel est le sens de ma vie, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde, cet univers est-il un chaos qui vient de nulle part et qui va nulle part, ou bien y a-t-il une intention derrière ces phénomènes, y a-t-il une origine et donc y a-t-il une fin? Et pour nous chrétiens, la réponse c'est Jésus-Christ, qui est, comme il nous le dit l'Évangile, le chemin, la voie, la vérité, la vie.
Quelle est votre paroisse?
Je suis banlieusard, j'habite Maison Alfort, à côté de l'école vétérinaire d'Alfort, et je fréquente la paroisse Sainte-Agnès d'Alfort. Mon évêque n'est pas le cardinal, mais l'évêque de Créteil, Daniel Mabille.
Le programme du colloque a continué par le deuxième module consacré à la théologie. Deux théologiens orthodoxes français ont donné des conférences, le professeur Jean-François Colosimo et le père archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard, doyen des paroisses de la métropole roumaine en France et recteur de la paroisse francophone Saint-Germain et Saint-Cloud à Louveciennes. Jean-François Colosimo est éditeur et professeur de patrologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Il va nous donner ses impressions sur le colloque « Science et théologie » et il va nous parler du sujet de sa conférence.
Je crois d'abord qu'il est très important que ce colloque ait eu lieu au sein du diocèse de l'Église orthodoxe roumaine en France, puisqu'il y a toutes ces relations vraiment culturelles très profondes entre l'esprit français et l'esprit roumain, et donc il faut en remercier Mgr Joseph ainsi que le père Razvan Ionescu, qui est d'ailleurs lui-même un scientifique et prêtre. Et là aussi, ça me semble tout à fait significatif d'une certaine ambition et qualité de l'orthodoxie roumaine de se confronter sans peur à la modernité et à la réalité du monde tel qu'il va. Il n'empêche que, d'un point de vue strictement théologique, la question même du dialogue entre la science et l'orthodoxie pose une question essentielle. Si on cherche à en retrouver les traces historiques, on peut dire que au XIVe siècle, à Byzance, au moment même où en Occident on élevait la théologie au rang de science et on voulait faire de la science une théologie, au même moment donc où en Occident on posait une sorte d'égalité entre Dieu et la raison, eh bien en Orient chrétien, on refusait cette égalité, considérant qu'il s'agissait d'une dérive grave qui apporterait nécessairement la sécularisation. Et on a posé au contraire qu'il est une expérience de Dieu, qu'il est non seulement une expérience de Dieu, mais une valeur de la connaissance de Dieu, qu'on qualifierait de mystique en Occident, mais qui est tout simplement ecclésiale en Orient, et bien qu'il est une valeur de l'expérience et de la connaissance de Dieu, qui outrepasse l'autonomie que l'homme s'accorde dans sa propre rationalité, en se voyant maître et possesseur du monde. Donc en fait, on peut dire que l'orthodoxie a refusé la science en tant que religion nouvelle de l'humanité, ce qu'elle est devenue peu à peu en Occident, à travers l'aplatissement du logos grec en ratio cartésienne, puis ensuite avec la sacralisation de l'histoire et du progrès que l'on a pu avoir avec Hegel et Marx, n'est-ce pas ? Puisque, il faut le dire, cette conception idéologique de la science est allée même jusqu'à hanter les phénomènes révolutionnaires. Donc, si l'on regarde aujourd'hui la situation du monde, on se rend compte de deux choses. D'abord, c'est que la science, là encore, pas le fait scientifique, pas le fait que l'homme puisse s'établir dans la connaissance du monde, mais la science en tant qu'idéologie, en tant que version religieuse en quelque sorte, connaît un double échec monstrueux. Un échec de ses réalisations d'abord, puisqu'on peut dire sans forcer le trait, et quoi que ça puisse paraître outrancier, mais il en est ainsi. Hiroshima, Auschwitz, le Goulag sont tous des projets qui reposent sur une certaine vision de la science, que les scientifiques aujourd'hui diront faussée, mais qui ne s'en voulaient pas moins scientifique. Échec historique, et puis tout simplement aussi échec du projet scientifique lui-même. On est passé du déterminisme à l'indétermination. Le fondement des mathématiques s'est écroulé, et je crois que l'écroulement de ce fondement des mathématiques correspond exactement à l'écroulement intérieur du projet de la science en tant que devenir absolu de l'humanité autonome. Et évidemment, les modèles physiques d'un monde infini explosent les uns après les autres, et l'on se rend bien compte que la suprématie qu'exerce aujourd'hui le modèle biologique, le modèle du vivant, avec toutes ses applications pratiques dans le domaine, par exemple, du clonage, de la génétique et autres, apparaissent extrêmement menaçants. On a donc aujourd'hui des scientifiques qui se tournent vers l'héritage des religions, l'héritage symbolique des religions. Ils vont chercher auprès du bouddhisme, n'est-ce pas, les tantras bouddhiques, auprès du judaïsme, la Kabbale, ou auprès des pères grecs, Saint Basile et Hexaméron, des nouveaux modèles de pensée. Je crois qu'il y a une recherche louable, bien que ces scientifiques spiritualistes restent en quelque sorte une extrême minorité, que l'hostilité des sciences à la religion, et à la religion chrétienne particulièrement, reste extrêmement profonde, et que cette quête, pour être intéressante, n'est pas non plus sans limite. Je crois qu'elle suppose en fait une sorte de distinction apophatique entre ce qu'est un discours théologique et le sens de la vérité dans un discours théologique, qui est toujours un sens incarné, vivant, existentiel, et le sens de la vérité dans les sciences, sciences dures particulièrement, voire, puisqu'il ne faut pas les exclure, dans les sciences dites de l'homme, et qui se caractérisent souvent par un effacement même de l'humanité dans leur recherche. En fait, je crois que les théologiens peuvent aider les scientifiques, à un moment même où les scientifiques deviennent des héros de la société du spectacle, où on leur demande leur avis sur tout et n'importe quoi, que les théologiens peuvent aider les scientifiques à ne pas formuler une espèce de nouvelle gnose qui serait extrêmement préjudiciable, n'est-ce pas, au dialogue lui-même, mais aussi tout simplement à la science et à la théologie. Comment faire pour éviter cette dérive ? Je crois que l'enjeu est très simple, c'est que le dialogue entre théologiens orthodoxes, au moins, et scientifiques réclame, je suis désolé de le dire, ça peut sembler très impérieux, voire impérialiste, une sorte de mouvement de repentir des scientifiques quant aux prétentions théomorphiques de leur projet, et une forme aussi de prudence quant aux applications qui peuvent être sorties de leurs travaux. Il m'a semblé tout à fait significatif qu'en France, au moins, il y ait de grands généticiens qui aient renoncé à certaines expériences car ils considéraient qu'ils sortaient de l'humanité. Et pour conclure, ce que les théologiens peuvent apporter aux scientifiques, c'est une manière de regarder la réalité de l'homme qui n'est pas définie parce que l'homme entend être, mais parce qu'il justement outrepasse, dépasse, passe l'homme, comme dirait Pascal, qui était d'ailleurs lui-même un grand scientifique, ce qui n'a pas empêché de vivre l'expérience de Dieu comme un profond ébranlement de toutes ses certitudes, y compris savantes.
Ce colloque est un signe d'espoir dans ce sens-là, par le fait que des scientifiques très importants ont participé, des scientifiques français qui se déclarent et vivent en tant que chrétiens catholiques ou orthodoxes. Et je rappellerai ici la parole finale de Monseigneur Joseph,
qui disait que dans cette paroisse qui a accueilli le colloque, la paroisse orthodoxe roumaine Saint-Paracelse-Saint-Geneviève, il y a beaucoup de gens scientifiques qui viennent là, mais les prêtres ne se confrontent pas avec la pensée scientifique, mais avec la prière des scientifiques chaque dimanche.
Oui, je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, si parmi les scientifiques, des chrétiens, en quelque sorte, tirent la sonnette d'alarme et nous aident à sortir de cette espèce de représentation complètement absurde due aux théories physiques et aux théories biologiques ambiantes selon lesquelles l'homme serait, en quelque sorte, le résultat d'un monstrueux hasard, eh bien, si ces scientifiques déjà peuvent œuvrer et, en quelque sorte, enlever le corset de fer qui entoure ces théories, s'ils peuvent inviter leurs confrères à travers leur propre dialogue avec les théologiens à réapprendre à respirer, n'est-ce pas, hein, puisque l'inspiration, elle vient dans la respiration et qu'il n'y a pas de prière qui ne soit pas en même temps une inspiration et une respiration. Donc, s'ils peuvent aider à ouvrir cet univers terriblement clos de la science dans laquelle on ne cesse de parler d'infini et de sélection comme si ça allait de soi, mais qui est un monde très fermé sur lui-même en fait, et si nous pouvons y contribuer, alors c'est un authentique signe d'espérer, si ce n'est d'espoir, au moins d'espérer. Et encore une fois, je crois que ce n'est pas pour rien que cette volonté de dialogue advient au sein de cette chrétienté roumaine qui est à cheval sur les Europes, qui est à cheval sur les mondes, qui est à cheval sur les cultures, et que là, il se passe quelque chose, effectivement, du point de vue de la rencontre. Et la rencontre, ça, c'est un thème évangélique.
Dans la troisième partie du colloque, le module Sciences et Théologie, une table ronde a réuni l'astronome Jean Kowalewski, Adrien Lemeny, ingénieur assistant à la faculté de théologie orthodoxe de Bucarest, et le père Răzvan Ionescu. Jean Kowalewski est membre de l'Académie des sciences de France et il fait partie de la paroisse orthodoxe francophone d'Antibes, sur la Côte d'Azur. Nous lui avons demandé de nous parler de ce dernier module dédié au dialogue entre la science et la théologie.
C'est extrêmement intéressant puisque nous avons eu des points de vue de théologiens, d'ailleurs pas forcément convergents, ce qui est intéressant de voir que la théologie orthodoxe est assez multivariée. Et puis ensuite, nous avons discuté un peu sur les relations qui existent entre la science et la religion, ou bien la science et la théologie. Et je dois dire que ce fut fort intéressant, car on a pu trouver quelques points de convergence.
Jean Kowalewski, quel est votre domaine de recherche ?
Je suis astronome, et je suis donc à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et j'ai beaucoup travaillé dans plusieurs domaines de l'astronomie, mais au cours, disons, des dernières années, c'est surtout l'étude des mouvements des étoiles dans la galaxie grâce au satellite Hipparcos qui avait été lancé par l'Agence spatiale européenne. Et actuellement, nous sommes en train de préparer un autre satellite beaucoup plus puissant avec des précisions beaucoup plus grandes.
Donc, votre profession, c'est d'étudier le ciel matériel. Mais en tant que chrétien orthodoxe, vous avez aussi une vision, une contemplation du ciel spirituel, des cieux. Parlez-nous un petit peu du sujet que vous avez développé lors de ce colloque.
Le sujet que j'ai développé est un sujet qui, à mon avis, fait un peu un parallèle entre la science et la théologie, ou la science et la religion, préférerais-je dire. J'ai essayé de faire un parallélisme entre ce qui est le moyen, l'outil indispensable et très utilisé en science, qui est ce qu'on appelle le modèle, qui n'est pas la réalité, mais une certaine description de la réalité, et qui est une description partielle et qui peut être d'ailleurs plus ou moins complète selon l'auditeur en quelque sorte. Et j'ai fait le parallèle avec ce qui se passe en religion où finalement les paraboles telles que le Christ les a dites ou bien les icônes des orthodoxes sont également des moyens imparfaits mais tout de même significatif de pénétrer dans la réalité divine, étant bien entendu que lorsque j'ai parlé du Christ, la réalité complète divine a été celle de sa résurrection, mais lors de son enseignement, il a utilisé des paraboles qui étaient, disons, plus à la portée de ses auditeurs.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences. Est-ce qu'il y a aussi d'autres académiciens qui ont la foi chrétienne ?
Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a effectivement un peu une tendance en régression, mais malgré tout non négligeable, de séparer en quelque sorte la vie spirituelle de la vie scientifique. Mais elle est en train de disparaître. On découvre au hasard d'une rencontre, d'une discussion, que votre interlocuteur est croyant, alors que avant on n'avait que des échanges purement scientifiques qui le cachaient en quelque sorte. Il y a bien sûr quelques-uns de nos confrères qui sont par exemple membres de l'Académie du Vatican, et il y a surtout un de mes confrères qui a parlé au cours de ce colloque et qui est Pierre Perrier. La lune est des étoiles pour présider à la nuit, alléluia. Or est aimé de sa miséricorde.
Le principal organisateur du colloque Sciences et Théologie a été le père Răzvan Ionescu, recteur de la paroisse orthodoxe roumaine Saint-Paraschev-Saint-Geneviève, qui a accueilli cette rencontre. Il est ingénieur, docteur en génie biomédical et doctorant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, où il prépare une thèse sur la relation entre la science et la théologie. Il va nous dire d'abord comment est née l'initiative d'organiser ce colloque.
Il y a quelques années, je me suis penché sur ce sujet de la relation entre la science ou les sciences et la théologie, théologie orthodoxe tout d'abord. Nous avons pensé d'organiser quelque chose pour le profit de le plus grand nombre. Donc il y a 2 ans, on a organisé un premier volet, si vous voulez, d'un colloque. On a inventé un colloque sur la relation entre la science et la théologie, bien signalé par le service orthodoxe de presse, parce qu'il s'agissait à l'époque de quelque chose de nouveau. Il y avait une première initiative dans l'espace occidental de l'orthodoxie. Aujourd'hui, on a accompli le deuxième volet de ce colloque. Donc, on essaie simplement d'entamer une réflexion profonde, dans la mesure du possible, sur les questions de rencontre entre les sciences d'aujourd'hui et la théologie, et j'ose dire entre les scientifiques d'aujourd'hui et ceux qui se manifestent dans la théologie.
Aussi par votre domaine de recherche, vous êtes intéressé de ce dialogue, n'est-ce pas ?
En fait, on a parlé aujourd'hui d'un certain carrefour, c'est-à-dire on est à la rencontre de certaines disciplines. La théologie n'est pas nécessairement une discipline, c'est-à-dire c'est une manière de vivre, mais je comprends ce que vous venez de dire. En fait, par la double formation qu'on a acquis, côté technique, côté théologique, bien sûr que je me suis penché, je suis intéressé fortement dans cette relation, mais grâce à Dieu, je ne suis pas le seul. Donc on a fait le colloque parce que c'est un intérêt, j'ose dire général, en fait, sur des questions de rencontre science et théologie, dans le sens large du terme, de la rencontre de la théologie d'aujourd'hui, du vécu chrétien, avec le milieu technique ou techno-scientifique qui est aujourd'hui.
En conclusion, vous pensez que ce colloque a atteint ses buts ?
Côté participation, à mon avis, on pouvait avoir plus de monde. En même temps, on enregistrait on a gagné nous-mêmes quelque chose, c'est-à-dire on n'est plus les mêmes personnes à partir de ce moment-là. Moi, je me sens plus riche et donc je vais profiter toute ma vie. Et je ne vous cache pas le fait, avec cela, je vais conclure. En fait, la présence des personnes qui ont intervenu chez nous, c'était une présence extrêmement agréable, humble, et qui nous a donné des repères assez forts sur ce genre de dialogue. Ce sont des personnes qui sont douées et habilité à intervenir dans ce genre de dialogue. Donc, à mon avis, c'est accompli en tant que mission, c'est-à-dire on a réussi à avoir un vrai dialogue, pas pour les sourds, un vrai dialogue. Et après, il faut voir de quelle manière on peut faire profiter encore d'autres personnes dans l'avenir.
Cet hymne liturgique, Lumière joyeuse, interprété en roumain par l'ensemble de chants byzantins de la paroisse Saint-Paracelse Saint-Geneviève de Paris qui a accueilli ce colloque, fait partie de l'office de vêpres orthodoxe. Durant l'office de vêpres qui a été célébré en roumain et français par le père Răzvan Ionescu après la clôture du colloque Sciences et Théologie, les théologiens et les scientifiques chrétiens participants ont vécu une communion véritable dans la prière, au-delà de toute difficulté supposée par leur dialogue qui se trouve encore à son début. Chers auditeurs, nous vous invitons à écouter nos émissions précédentes sur le site internet de l'émission à l'adresse suivante ortradio.free.fr, je répète ortradio.free.fr, et de nous écrire vos impressions à l'adresse électronique ortradio@free.fr, je répète ortradio@free.fr.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui.
Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines des monastères Simonos Petra au Mont Athos et Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors et par l'ensemble de chants byzantins de la paroisse roumaine Saint-Paracelse Saint-Geneviève de Paris. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM.